Qui fait quoi ? Une série d'émissions qui nous emmène à la rencontre des acteurs du médico-social de notre territoire.
Et qui êtes-vous alors ?
Que faites-vous ?
Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette structure-là ?
Est-ce que l'atelier est fait pour tout le monde ?
Est-ce que tout le monde peut être bénéficiaire ?
Quel papier il faut fournir pour avoir un dossier ?
C'est pas très expliqué tout ça sur...
Afin de mieux comprendre et savoir à qui s'adresser dans le labyrinthe des structures du médico-social et de l'emploi, une équipe de reporters est partie à la rencontre de ceux qui œuvrent pour rendre les difficultés surmontables et partagent avec vous le fruit de leurs échanges. Qui fait quoi ? Une série d'émissions soutenues par le département du Lot, réalisées en partenariat avec Quercy Contact. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui fait quoi ? Aujourd'hui, nos apprentis reporters vont vous emmener à la découverte du service mobilité de Cahors.
Nous sommes en compagnie de Océane, Eric, Nathalie qui est avec nous aussi. Et nous sommes ici au service mobilité à Cahors en compagnie de Christelle Dos Santos. Et je te laisse poser les questions, Océane.
Bonjour Christelle, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le service mobilité et qui vous êtes, s'il vous plaît ?
Alors, donc je suis Christelle Dos Santos, je suis la chef de service mobilité. Donc, service qu'on a créé en janvier et ouvert en janvier 2020. Alors, avec la crise sanitaire, on a été obligé de fermer pendant plusieurs mois, puisqu'on n'avait pas le droit de faire de location de véhicules. Le service mobilité travaille sur les problématiques que rencontrent les demandeurs et les repreneurs d'emploi, donc sur tout le département du Lot. On essaie de travailler et de résoudre les problèmes de mobilité des personnes qui sont en emploi, en formation ou qui veulent aller en emploi ou en formation.
Par exemple, j'ai besoin d'un véhicule, je viens vous voir, comment se passe la démarche, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut avoir, être bénéficiaire de RSA exact, par exemple, ou autre chose ?
Alors, on a plusieurs conventions, donc notamment une convention avec Pôle emploi et la région Occitanie, qui permet à tout demandeur et repreneur d'emploi de nous solliciter via une fiche de prescription. Vous allez voir votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi, elle nous envoie une fiche de prescription, on vous appelle et on fixe un rendez-vous, c'est ce que j'étais en train de faire quand vous êtes arrivé. On fixe un rendez-vous et on va faire ensemble un diagnostic mobilité. Donc soit en présentiel, pour les personnes qui peuvent se déplacer, soit en distanciel, donc ça sera téléphone ou alors en visio. Ce rendez-vous qui va durer, ça peut durer une heure, ça peut durer une heure et demie, ça peut durer deux heures, même des fois deux heures et demie. Je vais vous poser plein de questions sur votre situation actuelle, toute la situation sociale, professionnelle. On va parler de la mobilité, de vos connaissances que vous avez en termes de mobilité. Qu'est-ce que vous connaissez sur les transports qui existent sur le département ? Comment vous avez l'habitude de vous déplacer ? Moi, ça va me permettre de faire un bilan et de voir vraiment vos problématiques de mobilité et de trouver ensemble des solutions. Tout se fait ensemble. Donc, on va définir un accompagnement et des solutions. Et s'il y a besoin pour une formation ou un emploi, il y a la possibilité, pendant cet accompagnement, de vous prêter un véhicule, de faire de la location sociale de véhicules.
Est-ce que c'est ouvert qu'aux détenteurs du permis ?
Alors, non, puisqu'on a, dans notre parc de véhicules, on a des vélos. On a des vélos à assistance électrique, on a des scooters, on a des voitures. On a aussi un fourgon pour les déménagements, pour aider les personnes qui ont besoin de déménager pour se rapprocher du lieu de travail. Et on a aussi un minibus, là, exclusivement réservé aux associations et aux partenaires qui permettent d'aller faire des journées. Par exemple, Quercy Contact nous le prend pour faire une journée avec leur chantier d'insertion. On travaille avec la mission locale et on a des clubs sportifs aussi qui viennent, donc ils louent les minibus. Donc nous, on a tout type de véhicules et tout type de statut en termes de public. Là, j'ai parlé des demandeurs d'emploi, mais on a aussi le département nous envoie des allocataires du RSA. La mission locale, on travaille avec les jeunes de moins de 26 ans et Cap Emploi avec les personnes qui ont des situations de handicap.
Donc vous avez des véhicules aussi ouverts à tout handicap, j'imagine.
Et non. Non. Alors, on n'a pas de véhicule boîte auto et on n'a pas de véhicule adapté pour les personnes en situation de handicap. Non.
Mais vous avez des solutions pour les aider.
On essaie de trouver des solutions pour les aider, effectivement. Il faut savoir que la mobilité, ce n'est pas uniquement la possession d'un véhicule. On va travailler sur les alternatives à la possession d'un véhicule, notamment le temps quand une personne démarre un emploi. Elle n'a pas la possibilité le premier mois, le deuxième mois d'acheter un véhicule, notamment et actuellement par rapport au marché de l'occasion qui est très compliqué pour trouver une voiture à petit prix. Donc du coup, le travail qu'on va faire, c'est pendant la location du véhicule, s'il y en a une ou pas, c'est travailler et essayer de trouver des solutions. Donc ça peut être un microcrédit, ça peut être faire des économies. Donc on essaie de faire en sorte que la location coûte le moins cher possible, voire zéro. Faire des économies pour pouvoir s'acheter un véhicule, faire des économies pour pouvoir passer le permis de conduire. Donc entre-temps, on peut prêter un scooter, un vélo pour aller travailler. Et on essaie aussi de résoudre tous les problèmes que rencontrent les personnes au niveau psychologique, puisqu'on a des personnes qui ont un moyen de locomotion, ou qui avaient un moyen de locomotion, mais qui ne peuvent plus conduire, parce qu'il y a des problèmes d'addiction, parce qu'il y a des problèmes psychologiques suite à un accident. Enfin, il y a toute une sorte de profil. On a des personnes qui n'arrivent pas à passer le code de la route, parce qu'elles ont des problématiques de français, de compréhension, d'écriture et de lecture du français. Voilà, il y a toutes les problématiques de mobilité, pas seulement la possession d'une voiture.
Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, la mobilité pour vous?
C'est mes chaussures.
Ouais,
ou le bus.
Moi, c'est pareil. À pied et le bus. Mais j'ai une voiture quand même. Mais je suis bloqué. Parce que, à cause de. Ouais, bon. Je raconte pas ma vie. Mais bon, à cause de personnes un peu véreux qui m'empêchent de pouvoir m'assurer et tout ça. Voilà. Donc, sinon, j'ai un véhicule, mais je peux pas m'en servir à cause de ça.
Oui, donc le but du service mobilité, c'est de vraiment prendre en globalité le problème de mobilité. Souvent, on a des demandeurs d'emploi, des conseillers Pôle emploi qui nous appellent et nous disent « Voilà, cette personne, elle ne peut pas travailler parce qu'elle n'a pas de voiture. » Au final, on s'aperçoit que des fois, il y a d'autres freins derrière. Donc, c'est utile aussi aux conseillers de savoir, puisque quand on a un rendez-vous d'une heure, une heure et demie, deux heures, ben, la personne, elle va se livrer. Il y a des choses qu'elle peut nous dire, mais qu'on n'est pas obligé de noter aussi dans le bilan qu'on va transmettre à Pôle emploi, mais on va émettre des réserves sur le fait de dire « cette personne-là, elle n'est pas mobile, mais il y a d'autres problèmes derrière qui l'empêchent de travailler ». Et on va essayer de trouver des solutions. Donc ça va être de l'orientation vers un professionnel, puisque nous on ne fait pas, vers une association qui fait de la remise en confiance en soi, vers toutes d'autres méthodes alternatives à la médecine qui peut permettre à la personne de débloquer tout ça et de trouver des solutions par rapport à sa mobilité. Et des fois, on s'aperçoit qu'il y a des solutions de bus, il y a des solutions de car, il y a des solutions de train, il y a des solutions de covoiturage qui existent, mais que la personne, des fois, elle ne connaît pas. Ou elle a un véhicule en panne, et elle ne sait pas qu'il y a des aides qui existent par rapport aux réparations de véhicules. Donc, on va aussi l'informer de tout ce qui existe en termes de déplacement sur le département, et par rapport à son statut, de toutes les aides qui existent aussi. Et donc, c'est quand même assez important de le savoir.
Alors, les modalités de mise à mise à disposition du véhicule, on va pas parler de location. Hein.
Oui, alors
c'est lesquelles?
Alors moi, je parle de location sociale, puisqu'on n'a pas le droit de rentrer en concurrence avec les professionnels. Donc c'est uniquement dans le cadre d'un emploi et d'une formation. On ne peut pas prêter pour aller chez le médecin, les actes de la vie quotidienne. On ne peut pas non plus prêter uniquement pour la recherche d'emploi. On ne prête que pour l'entrée et le maintien à l'emploi. Il y a deux raisons. La raison première, c'est ne pas rentrer en concurrence avec les professionnels. Et la deuxième raison, c'est que nous, on a un parc limité. On a actuellement 11 voitures, on a 13 scooters et on intervient sur l'ensemble du département du Lot. Actuellement, depuis un mois et demi, il y a une grosse reprise au niveau de l'emploi. Il y a des formations qui vont démarrer au mois de septembre. Il y a beaucoup de demandes par rapport à des formations et on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc, on ne peut pas prêter pour la recherche d'emploi. On prête vraiment pour l'emploi et la formation.
Et c'est en mode du lundi au vendredi ? Si une personne a besoin d'un véhicule deux semaines, comment ça se passe?
Alors, la voiture, elle est prêtée le temps que la personne elle est en emploi ou en formation, maximum 3 mois. On peut prolonger un peu. S'il y a une solution de mobilité qui va être trouvée et qu'on est ric-rac au niveau du délai et que dans un mois, j'ai une solution, mais là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, on peut prolonger la location du véhicule. Le véhicule, c'est la personne qui l'a. Elle ne rentre pas le week-end. Il y a des contrôles obligatoires toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc, contrôle mécanique, mon collègue va vérifier le bon usage du véhicule, voir s'il n'a pas été abîmé, va vérifier les pneus, l'éclairage, etc. à la base. Et ensuite, le contrat de location, il est valable une semaine ou deux semaines et il est renouvelé chaque semaine. On fait un relevé kilométrique qui permet de voir que la personne, elle n'utilise pas la voiture pour faire autre chose que pour aller travailler, puisqu'on va faire un dossier et on va demander un justificatif de domicile et un justificatif d'emploi ou de formation. Et on va savoir à peu près combien de kilomètres la personne elle va faire. On autorise bien sûr la personne à amener les enfants à l'école, aux activités extrascolaires, aux activités de sport, aller chez le médecin, aller faire des courses. Mais tout ce qui est sorti le soir, sorti le week-end et tout ça, nous on peut pas, c'est au niveau des assurances. C'est très compliqué, donc il faut qu'on garde nos assureurs, il faut qu'ils restent avec nous. Voilà. Nous, quand la personne travaille du lundi au vendredi, on va lui demander d'effectuer les déplacements, d'utiliser la voiture du lundi au vendredi. Le samedi, éventuellement, notamment si c'est un petit peu loin, si la personne elle est complètement isolée sur une commune hyper rurale, qu'elle n'a pas la possibilité d'aller faire les courses en semaine, on lui donne l'autorisation d'aller faire les courses. Mais si la personne elle habite sur le département du Lot, on ne va pas lui dire « oui, vous pouvez aller à Montauban, à Toulouse, faire vos achats, etc. » Non, ça va être au plus proche de chez elle. On essaie de limiter les risques. Tout simplement déjà pour garder nos véhicules en bon état, éviter de prendre des risques par rapport aux accidents et surtout par rapport aux assurances. Voilà. Moins on a affaire à l'assureur et mieux c'est.
Et au niveau des tarifs, comment ça se passe? Combien ça coûte d'avoir un véhicule, un vélo, un scooter ou un vélo?
Alors, on a des tarifs de base. Alors, pour vous donner un exemple, une voiture coûte 22 euros la journée. Un scooter coûte 10 euros la journée. Un vélo, c'est 1 euro la journée. Ce n'est jamais le montant que paye la personne qui nous est envoyée. Tout simplement parce qu'on a des conventions, donc avec le département du Lot, avec Pôle emploi, avec la région Occitanie, et eux prennent en charge une très grosse partie de la location. Le premier mois, notamment quand c'est une reprise d'emploi ou une entrée en formation qui souvent sont peu rémunérées, on essaie de faire en sorte que la personne ait payé zéro au niveau de la location. Si vraiment il y a de très grosses difficultés financières, que l'assistante sociale, le conseiller Pôle emploi nous informe qu'il y a de très grosses difficultés financières ou que nous, on le voit lors du diagnostic mobilité, qu'on l'entend, que la personne elle nous le dit, on essaie de faire en sorte que la location pendant 3 mois elle soit gratuite. Donc on cumule des aides dans la mesure du possible. On va cumuler un maximum d'aides pour que ça coûte le moins cher possible à la personne. Nos véhicules, ils sont assurés tout risque. Quand on prête un scooter, un vélo, on prête un casque, on prête un antivol, on prête des gilets jaunes. Les voitures, quand on les met à disposition, elles ont le plein. Au retour, bien sûr, il faut qu'il y ait le plein. Ouais. Pareil, elles sont assurées tout risque. Il n'y a aucun frais, mis à part le carburant à faire. Et nous, on essaie de faire en sorte de monter des projets, de faire des demandes de subventions pour que la personne ait payé le moins possible au niveau de la location.
Pour faire un diagnostic mobilité, est-ce qu'il faut forcément être passé par notre référent social ou on peut venir vous voir juste pour avoir un diagnostic mobilité parce qu'on a un petit souci à ce niveau-là?
Alors, obligatoirement, nous, on ne travaille que sur prescription. Voilà. Donc, vous pouvez très bien venir, mais suivant si vous êtes suivi par une assistante sociale ou pour l'emploi, on va vous réorienter pour avoir une prescription, tout simplement pour que ça soit financé. Et que on ne rentre pas en concurrence, toujours pareil, avec les professionnels. Nous, on a une règle, on est une association loi 1901. Donc, comme toutes les associations 1901, on a des obligations. Et on parle des 4 P, c'est le prix, le public, le profit et je ne sais plus le quatrième, je ne sais plus. Mais voilà, au niveau du public, il faut qu'on puisse se justifier. Et nous, d'ailleurs, on est supervisé par un expert comptable et un commissaire aux comptes. Il faut qu'on puisse se justifier que toutes les personnes qui s'adressent à nous ne peuvent pas s'adresser à un loueur professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, un monsieur qui fait de la vente à domicile, qui a un véhicule qui tombe en panne, s'il est en CDI depuis des années, s'il touche bien, s'il perçoit bien sa vie, etc., lui peut aller chez un professionnel. Moi, il faut que je m'assure que la personne qui vient nous voir et à qui on va louer un véhicule, elle n'a pas la possibilité d'aller chez un professionnel.
Le diagnostic mobilité, si vous le faites, c'est forcément pour avoir un véhicule par la suite. C'est pas juste pour avoir connaître les. Par exemple, moi, j'ai X raisons de pas avoir le permis ou quoi que ce soit, mais de pouvoir les mettre en tas avec quelqu'un qui s'y connaît. Est-ce que c'est pas possible juste de faire un diagnostic sans forcément vouloir tout de suite avoir une location de véhicule ou?
Le service location de véhicules, c'est un service complément au service mobilité. C'est un des services que nous, on peut proposer au niveau du service mobilité. Quand on fait un diagnostic mobilité, si on s'aperçoit que la personne, elle n'a pas le permis, des fois j'ai des jeunes qui n'ont pas non plus le BSR, donc ils ne peuvent pas conduire de deux roues, qui n'a pas de perspective pour le moment d'emploi et de formation, on va démarrer un accompagnement. Au regard du diagnostic mobilité et de ce que j'aurais vu en termes de problématiques, on peut démarrer un accompagnement. Quand la mobilité elle est de zéro, que la personne ne bouge pas parce qu'elle n'a pas les capacités ni cognitives, ni psychologiques, ni de santé pour bouger et tout, il n'y aura pas de prêt de véhicule. Non, un diagnostic mobilité permet de définir s'il y a un besoin et quel besoin. Et souvent, dans l'entrée en emploi et en formation, quand il n'y a pas de possibilité de se déplacer, il y a une location de véhicule. Mais ce n'est pas du tout systématique. Pas du tout, du tout.
Et est-ce que c'est ici qu'on peut trouver des facilitations pour la prise en charge du permis?
Alors, il y a certains, tout dépend du statut, tout dépend du public. Alors, il y a des aides pour passer, pour financer le permis de conduire. Il y a des aides de Pôle emploi. Il y a des aides pour les jeunes de moins de 26 ans par rapport au fonds d'aide aux jeunes. Il y a des jeunes pour les, il y a des aides pour les apprentis. Il n'y a pas forcément une aide par statut, mais dans la mesure du possible, nous, on a référencé toutes les aides qui existent. On met à jour très régulièrement. On a des infos, puis on peut aussi demander dans le cadre de réponse à des appels à projets. Nous, c'est le cas actuellement dans le cadre d'un dispositif particulier pour des contrats d'accompagnement jeunes rupture. On a demandé les financements de BSR, on a demandé des financements pour l'évaluation à la conduite, etc. On peut aussi demander dans le cadre de l'appel à projet, d'un appel à projet, des financements. D'accord. Dans la mesure du possible, on essaye de le faire, ouais. Ouais, ouais.
Alors, est-ce que vous connaissiez ce service? Est-ce que vos référents sociaux, vous en aviez parlé?
Non, il me semble pas. Moi, je connaissais parce que je passe souvent dans la rue, donc j'ai déjà vu, mais je me suis pas plus intéressée. Enfin, voilà.
D'accord. Moi, oui, je connaissais un peu. J'étais même passé.
D'accord.
Mais bon, c'était pour me renseigner, quoi. Ça, d'accord. C'était juste pour prendre les renseignements, parce que normalement, j'aurais dû reprendre un peu une activité, mais bon, vu les. J'ai eu pas mal de dégringolages, on va dire, entre-temps. Ça ne s'est pas fait de suite. Ça se fera plus tard, mais de suite, pour l'instant, j'essaie de régler mes problèmes, après, on verra.
Est-ce que vous pensez que ça peut répondre à quelques-unes de vos problématiques, ce service?
Oui, de toute façon, ça est sûr. Moi, si j'arrive à récupérer une assurance, bon, j'aurais plus ce souci de me déplacer. Mais c'est sûr que pour une personne qui en a besoin, c'est bien utile, ça. Pour partir dans l'emploi, tout ça. C'est vrai, quand on est à pied, dans Cahors, les bus, déjà les horaires, ça ne correspond pas la plupart du temps. Et puis, souvent, si on a un travail en dehors de Cahors, ben, c'est soit on y va en stop, ou soit on a la chance qu'il y a un bus qui y va. Mais et encore, il faut voir les horaires aussi, parce que ce n'est pas évident non plus. Et voilà. Bon, ben.
Alors moi, j'ai envie de demander à Christelle, hein, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit que les horaires de bus, ça ne va pas?
Alors, qu'est-ce qu'on dit à... c'est parce que ça ne va pas. Non, c'est vrai que les horaires de bus, ils sont adaptés à des personnes qui travaillent en horaire de bureau. Même si à Cahors, il y a eu beaucoup de choses de faites, il y a beaucoup de lignes de bus qui ont quand même des fréquences de passage assez, assez importantes. On a encore des secteurs de métiers, tout ce qui est métier dans les usines, manutention, les métiers de bouche qui ont des horaires bien spécifiques, tout ce qui est métier restauration, tout ce qui est métier dans la santé, où il y a des horaires très atypiques, ou même l'aide à domicile, où il faut être très touché la personne, et puis il faut revenir plusieurs fois, où là, c'est très compliqué de prendre des transports en commun, mais il y a quand même des solutions en termes de transports en commun. Mais c'est pas encore, et ça sera jamais... Nous, on est sur un secteur, même si Cahors et le Grand Cahors ont fait énormément de choses par rapport à la mobilité, au déplacement en transport en commun, il y a encore des zones où il n'y a pas de transport et il n'y aura pas de transport parce que c'est des demandes c'est très minime en termes de demandes. Donc, si on doit mettre un bus derrière chaque personne, ce sera très compliqué. Après, il faut juste aussi, on essaie aussi d'apprendre aux personnes parce que souvent on nous dit oui, mais j'arrive une demi-heure avant. Ben, c'est pas grave. C'est embêtant. Mais c'est pas grave aussi. Et il y a des habitudes aussi quand on utilise les transports en commun, quand on a un autre mode de déplacement que une voiture ou un scooter personnel, il y a des habitudes à prendre. Et puis ça se passe très bien quand on peut.
Le problème que peuvent avoir Paris et leurs transports en commun, quoi. Faut pas se plaindre. Enfin, j'ai habité dans une ville où les bus fallait les appeler la veille pour espérer les avoir le lendemain à une certaine heure. Faut pas oublier qu'à Cahors, les bus sont gratuits. C'est pas dans toutes les villes, hein. Franchement, pour une commune comme Cahors, je trouve qu'on est quand même vraiment bien desservi. Comme a dit, on peut pas mettre un bus derrière chaque petite commune ou chaque petit hameau qu'il y a dans le Grand Cahors, c'est pas possible.
Petit regret pour Eric sur la question.
Non, mais c'est un truc qui empêche aussi de faire quelques trucs. Parce que moi, ce que je voulais faire avec le truc, je suis obligé d'attendre d'avoir la mobilité ou d'avoir un vélo. Au moins, si j'ai un vélo, je pourrais me déplacer, même si je prends des risques sur la rocade et tout ça, je m'en fous. Mais au moins, je pourrais me déplacer. C'est ça le problème.
Bon, mais voilà, tu sais où tu peux en trouver. Hein.
Oui, je sais. Et encore, heureusement qu'elle en a parlé, parce que je ne savais pas.
Alors après, Les services mobilité qu'il y a dans les départements, dans plus, alors ici, il y en a, sur le département du Lot, il y en a un seul, mais toutes les structures qui travaillent sur la mobilité sont aussi là. Avant, il y a quelques années, donc il y a le pôle formation au Monta qui s'est créé, donc qui apprennent et qui forment des personnes sur une multitude de métiers. Il n'y avait pas de transport en commun qui allait jusqu'au Monta. Donc une personne qui était positionnée en formation ou à l'école du Monta, à l'école au niveau agricole, elle se retrouvait, il n'y avait pas de transport en commun. Les structures, Pôle emploi, le département, ont fait en sorte aussi, en collectant des données et en voyant que ben voilà, il y avait beaucoup de demandes pour le Monta, mais pas de transport en commun. Maintenant, il y a une ligne de bus qui va jusqu'au et qui s'arrête devant le lycée et qui correspond aux horaires. Le fait aussi de faire des diagnostics mobilité et de collecter des informations, ça permet aussi de faire remonter au département, à Pôle emploi, aux personnes qui nous financent, mais de dire attention, là il y a un gros besoin et il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de possibilité. Donc ça permet aussi de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on travaille, qu'on fait des ateliers mobilité, qu'on essaie de trouver d'autres solutions aussi.
Après, il n'y a pas forcément de pistes cyclables bien délimité sur toutes les routes du Grand Chaos ou quoi que ce soit. C'est pareil, c'est quelque chose qui est à mettre en place, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de rouler en sécurité sur les routes. Mais ça, j'imagine que ça prendra quelques années, mais ça prendra.
Oui, l'alternative à la voiture, aux véhicules dits polluants, la mobilité douce, etc., c'est très à la mode depuis quelques années. Donc il faut aussi savoir réadapter sa mobilité, sa façon de se déplacer, en utilisant ce qui existe déjà, plutôt que de vouloir toujours créer, etc. C'est vrai que voilà, sur Cahors, donc le Grand Cahors a mis en place le plan vélo, adapté ou pas adapté, ça dépend des personnes, ça dépend du ressenti. Mais il y a des choses qui sont faites quand même, qui sont pas mal faites. Mais voilà, adapter un plan vélo au niveau départemental, sur nos petites communes hyper rurales, nos petites rues, etc., ça sera très compliqué. Oui, ça sera très compliqué. C'est plus aux personnes, c'est plus travailler sur les automobilistes, les motards, voilà, sur sa façon, nos façons de nous déplacer et comment on se déplace et comment on peut tous se déplacer ensemble, qui est quand même beaucoup plus utile qu'essayer de monter des plans, etc., etc. Voilà, respecter tout moyen de locomotion, mais c'est compliqué encore.
Quand on voit qu'ils sont pas capables de respecter les 30 km/h en ville, enfin, ou même un stop à la sortie du parking souterrain, il y a une grosse adaptation à faire au niveau des zones des automobilistes.
Il faut changer les mentalités, mais ça se fera petit à petit. Ouais, petit à petit, on y arrivera.
Vous étiez à l'écoute de Christelle Dos Santos du service mobilité de Cahors. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les contacter au 05 81 70 61 97, 05 81 70 61 97.
Est-ce qu'on a fait le tour pour présenter ce service mobilité ? Peut-être qu'il y a des activités qu'on n'a pas citées, des moments de...
Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Donc, problématique de mobilité, j'ai parlé d'un peu de tout. On intervient de plus en plus, comme vous, monsieur, vous le disiez tout à l'heure, donc sur des problématiques administratives. Donc, de récupération du permis de conduire, de non-accès aux assurances, de perte de papier. Voilà, là, on intervient de plus en plus. Et on fait aussi, on a la possibilité aussi d'apprendre à des personnes, par exemple, à prendre le bus. Actuellement, j'apprends à une jeune fille qui a 19 ans, qui n'a jamais été en autonomie toute seule pour se déplacer. Donc, je lui apprends à prendre des bus évidence, à lire les horaires, à lire une carte et à prendre... donc, pour l'instant, on n'est pas encore à prendre toute seule, mais je lui apprends à prendre des bus, les bus évidence. On peut apprendre, on a fait aussi un groupe et on est allé jusqu'à la gare et on leur a montré comment, donc avec la dame au guichet, on leur a montré comment aller à la gare, se rendre au guichet de la gare, expliquer la situation, voire pour des cartes à tarif préférentiel et utiliser aussi, elle a fait une explication sur l'utilisation des bornes d'achat pour éviter de passer au guichet quand c'est fermé, etc. Prendre un billet de train, prendre un ticket de bus, etc. Voilà. On travaille sur tout, vraiment tout ce qui est question de mobilité.
Bon, eh bien c'est bon, on a fait le tour. Merci beaucoup Christelle de nous avoir donné un petit moment.
Et merci à vous, toujours aussi agréable, merci.
Et c'est ainsi que se termine cette émission. Au programme du prochain épisode, nous parlerons nutrition en compagnie de Patricia Perrin, diététicienne nutritionniste qui a animé des ateliers auprès de nos apprentis reporters. Qui fait quoi ? Une série d'émissions qui nous emmène à la rencontre des acteurs du médico-social de notre territoire.
Et qui êtes-vous ?
Que faites-vous ?
Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette structure-là ?
Est-ce que l'atelier est fait pour tout le monde ?
Est-ce que tout le monde peut être bénéficiaire ?
Quel papier il faut fournir pour avoir un dossier ?
C'est pas très expliqué tout ça.
Afin de mieux comprendre et savoir à qui s'adresser dans le labyrinthe des structures du médico-social et de l'emploi, une équipe de reporters est partie à la rencontre de ceux qui œuvrent pour rendre les difficultés surmontables et partagent avec vous le fruit de leurs échanges.
Le Point Justice est là pour répondre à toutes les questions sur tous les champs du droit.
Je suis la chef de service mobilité.
L'idée, c'est d'abord d'essayer de vous aider d'aider les personnes à régler des difficultés qu'elles peuvent rencontrer et qui sont généralement des obstacles à l'emploi.
Alors nous, on est une grande famille à Quercy, on travaille tous les uns avec les autres.
Je suis accompagnatrice socio-professionnelle à l'association RERTR.
On reste quand même dans ce réseau du social, c'est-à-dire qu'on est en lien avec les gens, on est là pour expliquer et surtout pour les aider à comprendre.
Qui fait quoi ? Une série d'émissions soutenues par le département du Lot, réalisées en partenariat avec Quercy Contact.
C'est vraiment enrichissant, c'est vrai que moi qui avais peur, qui n'osais pas, je disais toujours non au départ. Et je vois que finalement, petit à petit, bon ben voilà, on dit bien que l'oiseau fait son nid petit à petit, et moi c'est pareil, j'ai fait pareil. Et j'avance.
Retrouvez Qui fait quoi dans les éphémères d'Antenne Doc le jeudi matin à 9h et le vendredi à 17h ou en podcast sur notre site internet.
Et franchement, je conseille aux personnes qui sont timides, tout ça, d'oser parce que ça aide beaucoup.